Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mboujimaï au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Plusieurs provinces de la RDC ont déjà procédé aux élections et installations du bureau définitif de leurs assemblées provinciales. Si dans certaines provinces, ces scrutins se sont déroulés sans problème, dans d'autres, on observe une certaine tension. C'est le cas de la ville-province de Kinshasa où l'élection du bureau définitif de l'assemblée provinciale de la ville-province s'est déroulée sur fond de tension. Et dans la plupart de ces provinces, les bureaux provinciaux sont constitués en majorité des membres de l'Union sacrée de la nation. Cependant, après l'élection et installation du bureau définitif dans la plupart des provinces de la RDC, ceci avant les élections des sénateurs et gouverneurs, bon nombre de Congolais s'interrogent sur le rôle que vont jouer réellement ces assemblées pour le développement de leurs provinces respectives. Que pensez-vous du déroulement des élections et installation du bureau définitif des assemblées provinciales? Quelles peuvent être les attentes de la population? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs pour aussi intervenir en direct en composant les 081-890-6030 ou les 081-890-4969. Jean-Noël Mokonde est à la mise en nom de ce magazine. Nabila Chindani assure la réalisation et la coordination. Au micro, c'est Marcel Ngomobala. Toutes et à tous, et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Votre connexion Internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes ML, c'est gratuit. Radio Okapi.net, à votre service. Parole aux auditeurs. Pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Merci d'avoir été nombreux, comme toujours, à réagir sur la page Facebook par nos auditeurs par rapport à ces sujets également. Vous êtes inscrits pour intervenir en direct et pour développer ces sujets. Encore une fois, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Christian Molika, politologue et coordonnateur de la dynamique de politologue de la RDC, entendu Dipol en sigle. Christian Molika, bonjour.
Bonjour Marcel, et je salue en passant également tous qui nous suivent de partout, du Congo profond, y compris l'international.
Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. On va parler aujourd'hui de bureaux définitifs qui sont presque installés dans la plupart des points de la RDC. On se rend compte que les membres dans la plupart de ces bureaux sont constitués en majorité, en tout cas des personnes qui sont de l'Union sacrée de la nation. Et dans la plupart de ces provinces, les élections s'y sont déroulées sans problème, ça il faut le dire. Si peut-être dans la province de Kinshasa, il y avait une certaine tension. Mais voilà, les bureaux sont déjà installés. Et la question que l'on se pose maintenant que ce bureau définitif des assemblées provinciales sont installés, ces assemblées vont commencer à travailler. On sait qu'il y a eu d'autres législatures au niveau des provinces dans les années passées. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette nouvelle législature pour ce qui est des assemblées provinciales de la RDC?
Bon, c'est une question pertinente. Qu'est-ce qu'on peut attendre des assemblées? On attend qu'ils mettent en œuvre ce pourquoi on les a créées, à savoir permettre d'avoir une gouvernance de proximité. Pourquoi on a créé les assemblées? On a créé les assemblées parce que la constitution de 2003 a posé le principe que on pouvait plus gouverner par les hauts. Qu'on a fait l'expérience d'un Congo centralisé qui a montré ses limites sous Mobutu. Et qu'il fallait aller vers une approche où on crée plusieurs points d'impulsion du développement dans la proximité et qu'on transfère des compétences de développement à des entités proches des citoyens. Voilà pourquoi on a créé les assemblées provinciales. Avec un gouvernement qui a beaucoup plus de pouvoir et donc il fallait une assemblée pour le contrôler et qu'on est allé plus loin en créant des entités décentralisées, notamment les conseils municipaux qu'on a installés pour avoir dans la proximité des organes de gestion. Le problème, c'est qu'il y a les textes et il y a la mise en œuvre. Autant les textes ont permis un transfert de pouvoir, autant d'un point de vue financier, le transfert ne s'est pas réalisé tel que convenu. La Constitution a posé le principe de la retenir la source qui s'est jamais appliquée. On s'évertue à appliquer une rétrocession qui est anticonstitutionnelle. Ensuite, il n'y a qu'à suivre le dernier feuilleton. Ceux qui sont qui ça suivent peut-être le feuilleton des lampadaires pour comprendre que dans le fonctionnement régulier, ce qui se passe ne correspond pas à l'esprit constitutionnel. À savoir, par exemple, pour les cas des lampadaires, des commandes de la ville, ça veut dire le budget d'investissement de la ville, mais qui sont gérées encore par le gouvernement central. Et on vous dit que c'est le gouvernement central qui a passé le commande des lampadaires pour la ville de Kinshasa, pour la ligne route Elengesa, qui est une route d'intérêt provincial. Et aujourd'hui, on parle de détournement ou de travaux inachevés. Sur le 3500 lampadaires, on n'en a que 185. Parce que on a déstructuré la décentralisation financière, la mise en œuvre de la forme régionalisée de l'État qui a été instituée par la Constitution. Donc nous, on attend de l'Assemblée qu'il joue le rôle 1, d'appliquer ce pourquoi ils ont été installés, à savoir une gouvernance de proximité. 2, que les parlements ne servent pas de chambre d'accompagnement des gouverneurs. On l'a vu également dans les passés, à Kinshasa notamment, tous ceux qui suivent la question politique à Kinshasa connaissent la fameuse dynamique Ngobila. On a vu des assemblées qui sont, assujetties au gouverneur, à telle enseigne que l'assemblée provinciale, qui est censée être la première institution de la province, eh bien, est à la traîne du gouverneur, qui, parce qu'il gère les fonds, parce qu'il gère les subsides, met à la pied l'assemblée et ne sert pas à faire le travail de contrôle. Et on a très peu vu d'initiatives de contrôle partir des provinces pour sanctionner, par exemple, les assemblées provinciales, que ce soit à Kinshasa ou en province. Et on a très peu vu l'indépendance du bureau de l'Assemblée vis-à-vis de l'exécutif. À Kinshasa, vous prenez les feuilletons Godepo et Gentili Ngobila, vous sentez une Assemblée totalement assujettie. Donc nous aimerions bien avoir une Assemblée totalement indépendante de l'exécutif provincial et capable d'assurer son rôle de contrôle. Et peut-être en dernier lieu, pour moi c'est le plus important, mais une Assemblée qui travaille pour l'intérêt des administrés, à savoir Kinshasa.
Mais justement, c'est ça la grande question, Christian Molica. Comment on peut comprendre qu'il y a des députés provinciaux qui sont élus par la population et un bureau définitif qui est élu par les députés provinciaux dans ces assemblées provinciales? On suppose que ce bureau définitif, le fait qu'il soit élu par les assemblées provinciaux, ça relève du pouvoir, du mandat que le peuple a donné aux membres de ces bureaux définitifs à travers les députés provinciaux. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive jamais à travailler pour le bien de la population? C'est la grande question qu'on n'arrête pas de se poser. Est-ce que généralement ces bureaux ils sont élus de manière à ce qu'on puisse seulement avoir un contrôle d'un groupe politique, ou bien ces bureaux sont élus avec des gens qui ont des profils pour travailler pour le bien-être de la population?
Ça c'est également une vraie question. Le problème, c'est la qualité d'homme. Quelle est la qualité d'homme que nous mettons au sein des institutions? Et quand je dis qualité d'homme, je ne parle pas uniquement en termes de compétences, parce qu'on peut faire le débat des compétences, des hommes de compétences, on en a. La qualité d'homme, c'est aussi l'éthique, c'est aussi les valeurs. Est-ce que nous avons des hommes qui sont portés par le souci d'une gouvernance collective? Ou nous avons des entrepreneurs politiques qui viennent en politique parce qu'ils savent que c'est là où ça paye le mieux? Et comme l'Assemblée provinciale paye assez mieux, eh bien les gens viennent et savent qu'en entrant dans l'Assemblée, j'y participe moi aussi à gagner mon petit gâteau national et à me faire ma place dans l'échiquier de la gestion. Est-ce que la politique, on l'a fait parce qu'on est porteur d'un combat, d'un rêve, d'une anxiété sociale qu'on veut réaliser à travers la politique publique? Ça, c'est ce que nous manquons. Nous manquons des hommes qui vont en politique parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils sont, c'est une vocation et qu'ils veulent réaliser un projet collectif. Nous avons davantage d'hommes qui vont en politique parce qu'ils veulent, lui, s'enrichir, parce qu'il veut, lui, gagner. Bah, foutre à combien on paye là-bas? Eh ben, là-bas, on donne 10 000, il vient, il investit, il met sa maison en jeu, parce qu'il sait que derrière, il touche 10 000. Donc, c'est davantage ça. Après, la qualité d'homme, c'est aussi le profil des hommes que nous avons à l'Assemblée. Il y a une étude qui a été menée depuis 2006, qui a démontré qu'au niveau de l'Assemblée provinciale, on a davantage des hommes qui viennent, en première expérience des politiques, qui viennent du secteur commerçant et enseignant, et très peu des hommes d'expérience de gouvernance. Et malheureusement, comme nos assemblées se renouvellent pratiquement à 90%, donc nous avons à chaque législature des hommes nouveaux qui sont à leur première expérience de gouvernance, qui viennent peut-être du secteur de l'enseignement et du commerce et qui ne maîtrisent pas les rouages de l'État.
Et ceux qui viennent du secteur du commerce, on nous laisse entendre, c'est juste pour avoir certaines exonérations par rapport à leurs affaires, c'est pas pour travailler pour la population.
À la différence de l'Assemblée nationale où on a des hommes un peu plus expérimentés qui viennent du secteur libéral, université, avocat, ou aux fonctionnaires, à la scène provinciale, on a ce problème de qualité. Et ça, c'est les partis politiques qui, lorsqu'ils font les listes, privilégient par exemple le scrutin législatif national parce qu'il y a des grands enjeux autour du Parlement et donc du gouvernement, et les profils des gens qu'on envoie au niveau provincial, parfois c'est les seconds couteaux, pas toujours les meilleurs candidats, et donc on met en arrière-plan les problèmes de gestion de proximité, alors que ça fait partie des priorités des Congolais. Après, c'est le ticket de gouverneur. Les assemblées sont des organes de contrôle, mais quel gouverneur on met à la tête de la ville? Si on choisit un gouverneur parce qu'il donne 15 000 et un jeep, et qu'on n'est pas intéressé par son projet de gouvernance, faut pas attendre grand-chose des provinces. Quels sont les profils des gens qu'on met à la tête de l'exécutif, notamment de la ville de Kinshasa? Je l'ai dit dans certains médias, ça a énervé les gens, mais à Kinshasa, on a toujours construit un profil d'avoir, excusez-moi encore de le répéter ici, des têtes brûlées. Ça veut dire, on part du profil que les Quinois sont têtus, que les Quinois sont un peu voyous, il faut placer quelqu'un qui peut drainer les gens, simplement gérer les gens. Alors que la ville de Kinshasa, c'est 15 millions d'habitants, c'est un pays, c'est trois fois Brazzaville. Donc ça demande des capacités managériales énormes, parce qu'il faut gérer 15 millions. Si vous prenez l'Afrique centrale, autour de nous, le seul pays qui peut avoir plus de 15 millions, c'est l'Angola, et un peu moins, on peut ajouter, la Tanzanie n'a pas atteint ce nombre-là. Donc Kinshasa, c'est plus que le Rwanda, c'est plus que le Burundi, c'est plus que l'Ouganda, c'est plus Centrafrique, c'est plus que Congo-Brazzaville, en termes de population, c'est plus que le Sud-Soudan. Donc quand vous êtes gouverneur de la ville de Kinshasa, vous dirigez un pays. Vous dirigez un pays. Bon, mais quel est le profil qu'on nous met à la tête de la ville? Si on choisit les gens parce qu'ils vous donnent un jeep plutôt, et qui vous donne 50 000 et qui n'a aucun projet de gouvernance, eh bien, on aura une ville qui reste sous l'eau, on aura une ville avec plein de déchets, aucune politique d'assainissement, on aura une ville avec un banditisme urbain qui a tellement pris le dessus qu'aujourd'hui les gangs contrôlent des quartiers. Moi je suis de Kimbanseke, à Kimbanseke il y a un quartier qu'on appelle Beni, à Kinshasa. Ça veut dire un quartier de non-droit, où la police n'entre pas, les policiers n'entrent pas. On appelle ça Beni, à Kinshasa. J'ai fait un reportage il y a quelques temps, au quartier Nsingi, où la police a fui les Kuluna. Donc, si déjà à Kinshasa, vous avez cette forme d'abandon de l'État, imaginez...
Il y a des gangs qui contrôlent les quartiers.
Non, la police n'entre pas. Je donne des références, la police n'entre pas. Donc, si on n'a pas des politiques publiques qui sont mises en place, donc un exécutif qui a une vision réelle de travailler pour les Quinois, je suis désolé, on va se poser la même question, les attentes sont là, mais nos acteurs doivent être à la hauteur des enjeux. Et c'est de députés également d'être à la hauteur des attentes en désignant un ticket qui tienne compte des besoins des Quinois, à savoir une gouvernance de qualité, plutôt uniquement des intérêts personnels portés par une Jeep et peut-être 50 000 dollars.
Une gouvernance de qualité, c'est ce qu'il faut à nos dirigeants. Christian Molika, on revient à vous, on va ouvrir le standard. Il y a déjà des auditeurs en ligne, Amos Obissi, moi qui nous appelle depuis Bukavu, Blaise Ediki, Akisangani, Maguine et Jules à Bukavu, Franck. Aviano en Autriche et Marie-Paul Awa qui s'engagne. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine des chances citoyens. Par les auditeurs, nous parlons aujourd'hui de l'installation, des élections et installation du bureau définitif des assemblées provinciales à travers, en tout cas, la plupart des provinces du pays. Si vous voulez réagir, je rappelle le numéro d'appel, c'est les 081-890-6330 ou les 081-890-4969.
Votre connexion Internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes et mails. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mails, c'est gratuit. Radio Okapi.net à votre service.
Amos Bissimoa nous appelle depuis Bukavu. Bonjour Amos.
Amos, à tous les auditrices auditeurs de la radio Capi. Bonjour à l'invité.
Bonjour Amos.
On vous écoute.
Bonjour.
On vous écoute.
Merci.
Vous
bien.
Êtes en ligne, oui.
Au fait, nous tenons à saluer le sujet d'aujourd'hui pour ce qui est de l'installation des membres des bureaux définitifs des assemblées provinciales dans plusieurs provinces du pays jusque-là. Et pourquoi? Parce que nous connaissons tous le rôle de l'Assemblée provinciale, qui est celui de contrôler l'exécutif, représenter la population, mais aussi élire des lois pour permettre le bon fonctionnement de l'entité. Là, je vois la province. Mais comme vous l'avez indiqué dans le sujet, il s'observe que certains bureaux ont été installés sur base de tensions, pour ne pas parler de conflits. Et cela déjà risque d'être un problème sérieux, même pour ce qui est de l'élection de gouverneurs, mais aussi l'élection des sénateurs. Et cela peut bloquer même le développement de certaines provinces. Parce que nous savons qu'on va parler du développement sans pour autant faire allusion à la paix. Et on ne peut pas parler de la paix sans pour autant parler, faire allusion à la stabilité. C'est pourquoi, pour ce qui est de l'installation des membres définitifs de certaines assemblées provinciales, comment peut-on s'attendre au développement? Le cas de ma province, le Sud Kivu. D'abord, je tiens à rappeler que pour ce que nous avons constaté, il y a des grands partis qui n'ont aucun membre dans les bureaux définitifs de l'Assemblée provinciale. Deux, il y a constaté aussi avec regret qu'il y a des territoires, le Sud Kivu a 8 territoires, plus la ville de Bukavu. Mais il y a des territoires qui ne sont pas représentés au moment où il y a d'autres qui sont doublement représentés. Je prends le cas du territoire de Mwenga, qui a le président et le rapporteur. Je prends le territoire de Kalehe, qui a le vice-président et le rapporteur adjoint, et la question qui est allée. D'autres territoires ne sont pas représentés. Finalement, on est en train de se poser la question. Est-ce que cela ne va pas créer des frustrations auprès de ces territoires-là qui ne sont pas représentés ou auprès de ces grands partis qui ne sont pas représentés? Moi, je ne suis pas politicien, je suis un acteur de mouvement citoyen, un acteur social. Mais ce sont des analyses. Et je me dis, nous tous, nous connaissons les déstabilisations qu'a connues notre province pour ce qui est de la législature passée. Et cela a bloqué le développement de la province. Et c'est ce qui est en train de pousser à se poser des questions. Est-ce que réellement l'union sacrée existe? Et si l'union sacrée existe, est-ce que ça ne serait pas un troupeau sans berger? Parce que à de telles questions, comme on essaie de le dire au grand mot, hein, des grands remèdes, le chef de l'État lui-même devait prendre certaines décisions courageuses, et cela par rapport à sa vision, par rapport à ses objectifs, par rapport aux résultats escomptés. Et s'il ne le fait pas, il est en train de faire croire à certains gens qu'il ne serait pas à la hauteur de ses responsabilités. Parce que c'est lui en tant que chauffeur qui tient le volant, qui devait dire par rapport à telle institution, comme on l'a connu avec les régimes sortants, que nous avons pu diaboliser à longueur de journée. Mais quand même, il a pu montrer aussi certaines valeurs. Le chef, c'est celui qui sait prendre une décision, qui sait s'imposer, qui est capable de s'imposer par rapport à certaines questions d'État, surtout qui engage le bon fonctionnement de la nation. Et
voilà,
pour ceux qui est du Sud Kivu, pour ceux qui est de l'Équateur, j'ai choisi tel comme président de l'Assemblée, et pour ceux qui est de gouverneur, même qu'avec les désordres qu'on veut nous imposer au niveau de l'Assemblée nationale, ça ne s'est jamais fait dans notre pays le primaire avant les élections du président de l'Assemblée nationale. On veut non seulement créer un conflit aussi qui vous entre dans l'idée.
C'est des sujets qu'on pourra aborder prochainement. Merci à Amos Bissimwa d'avoir réagi depuis Bukavu. Avant d'accorder la parole à Blaise Saïdi qui nous appelle depuis Kisangani, je m'en vais lire cette réaction sur la page Facebook par les auditeurs. C'est celle de Wissele qui nous écrit: c'est toujours la même chose. Tant que les citoyens congolais n'auront jamais l'amour de leur pays, en commençant par les premiers citoyens, la RDC restera toujours à terre. Une autre réaction, c'est celle de Henri Kasongo Mulenda. Moi, je pense que pour que les assemblées provinciales fonctionnent normalement, il faut par exemple que Kinshasa cesse avec son ingérence dans l'exercice de fonction des députés provinciaux. Et aussi, lorsque les assemblées provinciales seront toujours un pays pendant plusieurs mois comme toujours, il est difficile que ces députés produisent des travaux qui pourraient être bénéfiques à la population. C'est Henri Kasongo qui a réagi sur la page Facebook par les auditeurs depuis Kisangani. On revient au standard. Blaise Saïdi est en ligne depuis Kisangani. Bonjour Blaise Saïdi.
Bonjour cher Marcel. Bonjour mon autre invité. Bonjour aux auditeurs de la radio KT.
Bonjour cher Saïdi.
Cher Marcel, c'est un sujet très pertinent vu le temps qui nous reste pour les élections des gouverneurs, vice-gouverneurs ainsi que les sénateurs. Donc, le sujet est pertinent au regard de l'élection des membres du bureau définitif. Nous allons solliciter d'abord les députés provinciaux étant donné qu'ils ont élu le ce père. Mais la déplaise de constater un peu de regret au niveau de la province ville de Kinshasa, au niveau de la province du Haut-Katanga, les choses ne se sont pas bien marchées. Donc ici chez moi, à la Tshopo, les choses se sont bien déroulées, où les députés provinciaux ont passé, ont élu leur père sans l'inquiétude. Mais du moins, nous regrettons, à ce qui concerne les élus de la Tshopo, où il y a quelques choses qui ne marchent pas au regard des élections des sénateurs ainsi que gouverneur et le vice-gouverneur, où quelques députés ont été cités pour une corruption anticipée. Là, vraiment, nous regrettons et nous ne connaissons pas quelle sera la suite d'une bonne élection à ce qui concerne les sénateurs, le gouverneur ainsi que le vice-gouverneur. Et cher Marcel, ainsi que notre invité, que nous cherchons quand même à demander à notre invité, lorsque le président Daesh ne reconnaît pas cette élection ou ces élections, quelle sera la suite? Merci, cher Marcel.
Voilà, merci Blaise Saïdi d'avoir appelé depuis Kisangani. Bon, on va voir comment ça va se passer avec les élections de gouverneur, vice-gouverneur et sénateur qui vont, si tout va bien, se dérouler la semaine prochaine, c'est-à-dire le 29 avril prochain. Mais là, vous avez suivi pour ce qui est des élections de gouverneur et vice-gouverneur, il y a les procureurs généraux pour la Cour de cassation qui a vraiment demandé à tous les procureurs de cours d'appel à travers le pays de traquer tous ceux qui tenteront de corrompre les députés provinciaux pour les élections de gouverneurs et sénateurs. On attendra de voir comment les choses vont se passer. Merci Blaise d'avoir appelé depuis Kisangani. Maguine Jules, vous êtes à Bukavu. Bonjour Maguine Jules. Maguine Jules, vous êtes à Bukavu. Il me semble qu'il n'est plus en ligne. On va aller en dehors de nos frontières pour retrouver Franck qui nous appelle depuis Vienne en Autriche. Bonjour Franck.
Bonjour à vous tous, à studio, mon frère Marcel. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les amis fidèles de la Radio Capi.
Bonjour Franck.
On vous écoute Franck, vous avez la parole.
Ouais. Ouais, merci beaucoup. Nous sommes déjà au niveau de la 4e législature nationale et je crois que ça serait la 3e provinciale si nous pouvons déjà commencer par ces brefs rappels. Puis par rapport à ce que vous avez posté sur votre page Facebook, tel que vous l'avez formulé, présenté et orienté sur base de l'actualité du moment, c'est déjà une bonne chose si dans certaines provinces de notre pays, les bureaux définitifs de nos organes délibérants au niveau provincial se sont déjà constitués et installés. C'est déjà une étape aussi capitale pour la suite. Mais encore faut-il que la plupart de nos actuels élus au niveau provincial se mettent réellement à leur place pour être aussi à la hauteur des attentes et des desiderata de leurs électeurs au niveau de leurs bases respectives. Et par rapport à la suite, mon cher Marcel, nous sommes en République démocratique du Congo. Nous savons comment les choses se font, surtout au niveau de ces élections indirectes pour les gouverneurs, les sénateurs et les vice-gouverneurs. Et les guerres de positionnement qui se constatent ici et là peuvent avoir des raisons d'être, mais la question à nous poser, est-ce que vraiment toutes ces guerres-là de positionnement se font seulement pour les bénéfices des concernés ou c'est vraiment pour au profit de la population? J'ai suivi l'invité avec beaucoup de respect, beaucoup de considération. Je crois que c'est de ce côté-là que moi j'aimerais un peu aller argumenter. Parce que dans la plupart des cas, quand on parle des hommes politiques congolais, on cesse de revenir sur un aspect qui est un peu général. La moralité, la probité morale, il y a les problèmes de la constance, il y a les problèmes de détermination, il y a les problèmes du patriotisme. Bref, Si nous devons voir tous ces aspects déficitaires qui caractérisent la plupart de nos hommes politiques, on reviendrait à ce que moi je thématise, la crise de l'éducation, la crise des valeurs. Si déjà, tel que l'invité venait de le dire, je lui dis merci, si on doit d'abord confier la responsabilité d'une institution à quelqu'un qui ne répond pas au profil, à quelqu'un qui n'a pas cette carrure-là, mais à un homme qui est seulement populaire, il est populaire, oui, il peut drainer autant de monde, oui, mais il va les drainer sur nos routes en vue de quoi et pourquoi. Et c'est à ce niveau-là que moi je dis, nous avons encore un problème de crise, un problème de valeur, un problème de conviction. Parce que si on doit déjà on doit donner la responsabilité à quelqu'un dont on sait d'avance qu'il ne répondrait pas à vos attentes, mais on est déjà mal parti. Et la plupart de nos dirigeants se battent seulement pour devenir gouverneur, pour devenir sénateur, parce qu'ils savent que pour le moment, en République démocratique du Congo, l'unique industrie qui reste, qui paye bien en termes de millions, c'est la politique. Tout le monde se bat pour devenir politicien. Les professeurs des universités, tout le monde se bat pour devenir politicien. Peut-être les quelques-uns qui ne se battent pas sont encore à compter au bout du doigt. Mais on se pose maintenant des questions, on va faire cette politique-là pour qui? On devient politicien pour devenir heureux soi-même, au niveau de sa famille, au niveau de son clan, mais on ne répond même pas aux attentes de la population. On se bat pour détourner des millions. Vous détournez des millions en RDC, vous allez les placer à l'étranger pour vous acheter des appartements. Vous allez vraiment exploiter toute une population seulement pour vous-même. Et là, vous vous dites vraiment politicien. Donc, c'est comme ça que la fois passée, avec le maître Diocèse, il avait dit, c'est le problème d'éducation. On doit réformer la mentalité. On doit encore soumettre même ceux qui veulent devenir des gouverneurs à une autre éducation civique. Si on n'a pas de valeurs citoyennes, on va aller travailler là pourquoi?
Mais justement, Franck, c'est ça les grands problèmes. Souvent, on le répète, on le dit, il faut réformer les systèmes éducatifs. Mais dans l'entretemps, puisqu'il faut réformer les systèmes éducatifs, s'il faut commencer à l'école primaire, secondaire, et ça, il faut dire, il faudra attendre peut-être 50 ans encore. Mais maintenant, là, la réalité, et c'est là, bientôt, ça sera 64 ans de l'accession de la RDC à l'indépendance. On répète toujours les mêmes choses. On reproche toujours à l'homme politique congolais les mêmes pratiques. La grande question qui se pose, l'homme politique congolais, vous l'avez dit, quand on veut le pouvoir, on veut le pouvoir pour quoi faire? On vous dit, c'est pour travailler pour le développement de la RDC, pour travailler pour le bien social. Mais aussitôt on arrive aux affaires, c'est plus le cas, on cherche ses intérêts personnels. Alors, on va rester toujours dans ce cercle vicieux où il faut voir comment faire autrement. Voilà, par exemple, Christian Molika a parlé, on doit déjà faire 10 efforts par rapport à ce qui est du profil, c'est-à-dire de la qualité des Congolais qui doivent en tout cas diriger nos institutions.
Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais j'ajouterai encore un élément.
Oui.
Je crois que partout ailleurs, si on parle du développement, on doit avoir une vision qui est nationale. On doit avoir une vision du développement qui est enseignée au niveau des écoles. Mais le problème chez nous, permettez-moi de le dire ouvertement, il y a seulement la vision du chef d'État et les autres doivent adhérer à cette vision. Mais cette vision qui est dans la tête de notre chef, si elle n'est pas bien comprise au niveau des enfants qui commencent les primaires, quand ils seront des responsables, la vision du développement d'un pays, la vision de l'avenir d'un pays, ça doit être au niveau général, au niveau national. On doit commencer à l'enseigner tel que moi je vois en Autriche où j'ai étudié, en Allemagne et partout. Dès le bas âge, au niveau de la maternelle, primaire, secondaire, on vous enseigne la vision du développement de votre pays et vous grandissez avec ça. Mais est-ce que chez nous on enseigne cette vision-là? C'est comme ça que les gens pensent que pour devenir politique ou politicien, il suffit de se battre, se positionner, se servir, et on est seulement au service de sa famille et de son clan, de ses amis. Mais là où on enseigne des visions nationales, on se bat pour travailler pour tout le monde. C'est là qu'il faut commencer par là, donc enseigner une vision du développement qui puisse être générale. On doit peut-être partir de cette conception de dire ça doit se développer selon la vision du chef d'État. C'est là une des grandes erreurs de notre pays.
Voilà.
Depuis des années, voilà. La vision de qu'est-ce qu'on en a fait maintenant, je crois que nous devons dire qu'il faut enseigner une vision du développement par, commençant par les cycles maternels jusqu'aux universités.
Voilà,
et on aurait maintenant une vision homogène, comme ça, on peut se battre pour la même finalité. Mais si c'est seulement la vision
merci.
Qu'est-ce qui garantit que tel ministre va les mettre en pratique?
Voilà, merci beaucoup Franck, depuis Vienne, en Autriche. On revient au pays et on retrouve Marie-Paul Awa qui nous appelle depuis Kisangani. Bonjour Marie-Paul. Marie-Paul Awa,
vous merci êtes... à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute Marie-Paul.
Oui, merci, monsieur le journaliste. Et d'entrée de jeu, il faut d'abord signifier que toutes ces élections au suffrage indirect des membres des bureaux définitifs des assemblées provinciales en République démocratique du Congo riment à l'esprit et à la lettre à la fois de la constitution de notre pays, de la loi électorale, de la loi sur la libre administration des provinces et des règlements d'ordre intérieur des assemblées en RDC. Alors, étant donné qu'il y a eu des partis ou des regroupements politiques qui avaient eu le nombre de députés provinciaux assez élevé que d'autres, et ces partis politiques, regroupements politiques, bien entendu, ont renoué des alliances politiques pour avoir ces membres dans les bureaux définitifs et des assemblées. Ce n'est pas un étonnement pour les juges. Alors, parce que vous le savez bien que à ce niveau-là, pour gagner un poste, il faut obtenir la majorité absolue. Et du coup, avec ces partis, ces regroupements politiques, ils ont eu à voir toutes ces relations, toutes ces alliances, et ils ont eu leur dans les bureaux définitifs. En ce qui concerne ce que la population doit attendre de tous ces bureaux, c'est que la population de la RDC n'est pas grand-chose que les tâches régaliennes de l'État. Et toutes les tâches de l'État, et la population, l'un d'entre nous puissions vraiment trouver bien des causes dans la réalité qu'on appelle un État. Parce que la manière dont l'État congolais est injuré, ça laisse à désirer si la vision politologique. On se dit, est-ce qu'on est dans un État ou on est dans un groupement ou dans une assemblée de mafiatés. Donc, il faudrait réellement que l'État soit au rendez-vous. Et déjà, si on administre ces assemblées ou ces pour administrer les circonscriptions de cette manière-là, je crois que la population sera en lien et les détails à courant de vous. Il y a bien évidemment des élections des sénateurs et des gouverneurs et des vice-gouverneurs qui en essence des délits.
Donc il y a quelques soucis avec votre ligne Marie-Paul Awa, maintenant retenez l'essentiel, pour vous il est grand temps que les députés provinciaux. Il y a des soucis avec votre ligne, Marie-Paul, alors, s'il vous plaît. Non, on ne sait plus.
L'état des droits, c'est l'ensemble des territoires nationaux. Et c'est rare à faire que le pays soit quand même au bon fixe, que l'insécurité ne soit pas grandissante comme nous le connaissons aujourd'hui. C'est l'occasion qu'on a encore donnée aux députés de pouvoir s'accepter et ceux qui veulent devenir gouvernants, mais...
Marie-Paul, on va s'arrêter là. Il y a des soucis avec votre ligne, mais on a compris l'essentiel de vos préoccupations. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine des champs citoyens par aux auditeurs. Si vous voulez intervenir par rapport à ces sujets, on parle des élections installations, des bureaux définitifs dont en ce qui concerne les assemblées provinciales à travers le pays. Vous pouvez nous appeler au 081 890 6030 ou au 081 890 4969.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Alors, revient à notre invité Christian Molika. Vous avez suivi les interventions des uns des autres. Comment réagissez-vous?
Oui, mais elles sont toutes pertinentes. Hein. Je vous marque beaucoup apprécié les contributions qui ont été apportées. à notre ami du Sud Kivu, je l'inviterai à lire les écrits d'un politologue du Sud Kivu qui s'appelle Alain de Georges Choukrani, qui habite Bukavu et qui coordonne avec les amis la dynamique politologue du Sud Kivu. Ils ont publié un article sur l'instabilité gouvernementale du Sud Kivu depuis 2006. Et c'est un article qui révèle les vrais problèmes liés à la gestion des ambitions, à l'équilibre régional de le Sud Kivu, qui est un problème très complexe depuis 2006 et qui fait que cette province est l'une des provinces les plus instables depuis 2006 en termes de stabilité au niveau gouvernemental. Après, je partage également l'avis de M. Franck sur l'éducation. Il faut énormément travailler à construire une conscience collective. C'est ce que lui il appelle la vision collective là. Nous manquons une conscience collective, nous manquons du patriotisme dans les chefs des dirigeants, nous manquons une façon de regarder le chemin à travers un regard commun. Et ça nous manque énormément. Il n'y a pas un pacte républicain qui fasse que ceux qui arrivent au pouvoir, qui soient opposants au pouvoir, disposent de points de convergence de gestion et des points de divergence d'approche. Et ça, il faut construire. Et ça passe par un vrai travail d'éducation, de sensibilisation. Le vrai problème, c'est que les structures qui devaient faire ce travail, à savoir les partis politiques, l'État, l'école, la société civile, et beaucoup ne le font pas. Comment on fait pour redonner ce travail d'éducation à une toute société qui est en crise? On est en crise multiforme. On a la crise de l'école, on a la crise de l'église, on a la crise des médias, on a la crise des politiques, on a la crise des partis politiques. Quelle structure aujourd'hui va faire ce travail de profondeur et qui va prendre du temps? Donc il faut vraiment réfléchir en profondeur sur comment éduquer les Congolais.
Mais Christian, vous parlez de l'éducation, vous parlez de Franck de Vienne qui a parlé de réformer les systèmes éducatifs, mais il y a ceux qui estiment que c'est seulement une question de volonté. Il y a le manque de volonté, de patriotisme qui fait que les choses ne marchent pas dans ce pays. Les gens sont bel et bien conscients, mais les gens n'arrivent pas à comprendre, surtout pourquoi lorsqu'on arrive aux affaires, on n'est plus la même personne lorsqu'on était soit dans l'opposition ou bien soit on était dans la société civile. C'est ça la grande question que l'on pose qu'on se pose dans ce pays pour ce qui concerne nos politiciens.
Mais il faut questionner les convictions. Est-ce que quand on est dans l'opposition, on a les convictions réelles de ce que l'on défend? Où on fait l'opposition parce qu'on veut que l'autre parte que je remplace. C'est ça le vrai problème. Si on n'a pas des hommes de conviction qui sont habités des idées fortes pour lesquelles ils sont capables de se transcender, eh bien, nous aurons des gens qui font de l'opposition parce qu'il faut remplacer qui sont au pouvoir, essentiellement remplacer. Donc, autre-toi que je m'y mette. Et quand je me mets, je reprends totalement ce que je te reprochais hier et je le refais à ma manière. Donc, on a un sérieux problème de conviction dans les chefs de ceux qui sont appelés à faire la politique. Mais comment faire pour créer des hommes de conviction? Comment faire pour avoir des hommes qui se construisent tous des valeurs? Et c'est là où je suis d'accord avec lui. Il faut travailler profondément dans l'éducation, mais ça appelle à des synergies énormes, parce qu'on a une crise multiforme qui malheureusement frappe tous les canaux qui sont censés faire ce travail, à savoir les médias, les partis politiques, les églises, les écoles, la société civile. Et même l'État, vous allez ailleurs, par exemple, un indicateur simple, les drapeaux. Pourquoi on partage les drapeaux? Pourquoi, par exemple, aux États-Unis, on vous répète tout le temps « proud to be American », fier d'être américain? Parce qu'on veut, le patriotisme, c'est un sentiment. Et ce sentiment s'entretient. C'est un travail qui est fait pour entretenir par le cinéma, par la culture, par la musique, construire cette fierté, cet attachement à une nation. Mais chez nous, on ne construit pas, on ne fait pas ce travail de construction de la mémoire. Vous avez un pays, prenons un exemple simple, nous sommes un pays en guerre depuis 30 ans. Mais est-ce que nous avons des statuettes, des stèles qui parlent de la guerre? Est-ce qu'on a des musées de la guerre? Est-ce qu'on a des lieux de mémoire où les gens peuvent se rappeler Makobola? Il n'y en a pas. Donc nous ne travaillons pas à construire la mémoire. Et donc quand vous avez un peuple qui n'a pas de la mémoire, qui n'a pas de repères, n'attendez pas de lui qu'il construise seul le patriotisme. Donc il faut un travail de fond qui demande une très grande implication des acteurs de la société civile, de mon point de vue, et pas des politiques, parce que aujourd'hui, de mon point de vue, très peu de politiques sont des hommes de
conviction. Mais une société civile qui déçoit aussi, parfois.
Oui, qui s'est politisée aussi, qui s'est fragmentée, qui est instrumentalisée en partie, mais il reste un noyau, de mon point de vue, qui a de la valeur et capable de porter ce combat. Nos acteurs politiques aujourd'hui, pour l'essentiel, je ne vais pas être le juge des politiques, mais pour l'essentiel, sont des entrepreneurs politiques. Ils viennent en politique parce que ça paye, essentiellement que ça paye. Et que derrière, on travaille à gagner de l'argent et pas à travailler pour un projet collectif de bonheur. Là, on le voit déjà dans la manière de répartir la richesse nationale, que ce soit dans le budget, que ce soit dans le dans le budget de fonctionnement des institutions, on a un déséquilibre patent entre ceux qui sont appelés à gouverner et ceux qui sont gouvernés. Et donc cet équilibre-là traduit l'absence collective des projets de développement pour l'ensemble des citoyens.
Voilà, on va poursuivre avec les auditeurs qui sont en ligne. On y va à Goma pour retrouver Dr. Mikaël Bolingo. Bonjour Dr. Mikaël Bolingo.
Oui, bonjour très cher Radio Capi, je salue l'invité. Nous saluons la thématique d'aujourd'hui.
Bonjour, bonjour Dr.
Oui, les amis, ont tout dit. En tout cas, ces élections sont quelque chose quand même encouragé. Mais ce que nous remarquons, c'est vrai, comme le thème le dit, il y a beaucoup de difficultés au sein de l'Union sacrée. Pourquoi? Parce que les gens ne parviennent même pas à partager la vision du développement, mais plutôt ils partagent la vision de l'intérêt. Voilà pourquoi nous, à notre niveau, comme population, nous attendons beaucoup de cette nouvelle législative. Seulement, quelque part, nous sommes un peu pessimistes par rapport aux réalisations. Ce sont toujours ces mêmes personnes-là qui ont induit les pays dans les conditions dans lesquelles nous sommes, qui sont toujours en train de se battre pour la gestion encore du pays. Parce que nous ne sommes pas en train de comprendre les mêmes gens qui ont détourné les biens du pays. C'est eux qui seront des présidents des assemblées, c'est eux qui seront des ministres. Là, quelque part, vraiment, on n'est pas en train de sentir qu'il y aura un changement. Et je voudrais aussi demander par rapport à l'état de siège. Il y a les assemblées provinciales qui sont déjà en cours, ici au Nord Kivu et dans l'Ituri. Je voudrais savoir, est-ce que l'invité a quelque chose à nous dire par rapport à ça?
Voilà.
L'élément que je voudrais glisser, nous sommes ici en guerre, au Nord Kivu. Est-ce que l'État n'a pas vraiment mis sur place une entreprise, une société ou bien des ONG pour aider? Parce que à l'heure où je vous parle, je suis à l'hôpital, en train de soigner, il y a des réfugiés qui sont en difficulté de payer les frais des hôpitaux. Quand même, nous, à l'hôpital, nous sommes en difficulté aussi de donner, donc, de traiter ces gens. Pourquoi? Parce que nous avons un afflux de malades et cet afflux-là nous met aussi en difficulté d'avoir des entraves. Donc, je ne sais pas ce que l'État a mis au moins quelque chose pour aider nos malades parce que
voilà, merci docteur.
C'est difficile vraiment de le prendre la charge.
Ouais, on a bien suivi. Merci docteur Mikaël Bolingo depuis Goma. Peter Maboudi, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Peter Maboudi.
Bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les éditeurs Capi et mes prédécesseurs.
Bonjour docteur, monsieur Peter.
Merci beaucoup pour nous avoir associés à cet échange. Je commence par une phrase qui dit « On ne corrige jamais les erreurs par une autre erreur ». Et je suis en train de réfléchir souvent sur l'exercice du pouvoir en Afrique qui constitue un défi pour les dirigeants. Comment on exerce le pouvoir en Afrique? C'est vraiment un défi majeur pour nos dirigeants que nous avons. À ce qui concerne les élections, monsieur Marcel, nous avons un pays qui est régi par les lois, en commençant par la Constitution. Dans notre Constitution, il est clairement défini la représentativité. Donc la notion de représentativité est reconnue dans la Constitution et dans notre loi du pays. Cela, c'est justement pour mettre la cohésion nationale et l'équilibre même géopolitique. Donc, comme le premier intervenant l'a dit, donc il y a beaucoup d'assemblées provinciales où nous constatons que le bureau n'est géré que par un seul territoire et non d'autres territoires. Donc, je reconnais l'unité du président de la République qui a reconnu nécessairement ses erreurs du passé. Mais nous constatons que les mêmes erreurs-là sont en train d'être répétées par beaucoup plus de collaborateurs. Parce que, je prends l'exemple de la province du Kasaï. Le bureau, d'abord de l'Assemblée nationale provinciale du Kasaï, est majoritairement composé seulement de membres de PES, ici, d'un même territoire, de Tikapa territoire. Donc, maintenant, d'autres territoires ne sont pas représentés. Aujourd'hui, nous envisageons les élections de gouverneurs. Il n'y a eu que deux candidats gouverneurs sur la liste. Et l'un est repêché. On maintient toujours un seul candidat de l'UDPS.
Est-ce que avec ce genre de méthode, on cherche à déstabiliser la province ou à instaurer la cohésion au niveau de la province? Ce sont des indices sensibles qui ne garantissent pas un avenir meilleur aux provinces. On ne peut jamais s'attendre à un développement si les bases, si les fondamentaux que nous voulons nous asseoir ne sont pas bien misés. Donc, c'est un problème majeur pour les élections à venir. Nous, populations, nous ne trouvons pas qu'il y aura un développement ici, quelle que soit l'installation des bureaux définitifs des assemblées.
Voilà, vous êtes pessimiste de votre part au vu des élections. Installation du bureau définitif, comment ça s'est passé dans cette province du pays. Merci Peter Maboudi d'avoir appelé depuis Kinshasa. Georges Kilangalanga, vous êtes à Kisangani. Bonjour Georges. Georges Kilangalanga, vous êtes en ligne depuis Kisangani. Il n'est plus en ligne, on revient à Kinshasa pour retrouver Obed Bouissa. Obed Bouissa, vous êtes en ligne depuis Kinshasa?
Oui Marcel, bonjour, bonjour tout le monde.
Bonjour Obed.
On vous écoute Obed.
Merci de la parole accordée. Laissez-moi vous dire que je suis éberlué du coup de voir la manière dont les choses sont coordonnées ici à Kinshasa, la capitale. Moi je veux dire que après des analyses très approfondies, j'ai conclu que Kinshasa aujourd'hui constitue les freins du développement même de la République démocratique du Congo, parce que si on devrait regarder les choses et les dire telles qu'il fallait les dire, Kinshasa devrait être voilà la référence de toute la République, de toutes les provinces. Mais quand on voit aujourd'hui les bureaux définitifs des assemblées provinciales sont installés dans d'autres provinces, les choses se sont déroulées très bien. Mais ici, dans la capitale, on fait comme si je ne sais pas moi quoi dire. C'est très compliqué. Ça veut dire qu'il y a une absence totale, s'il faut le dire, des consciences et des sens et des redevabilités. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas bien. Pourquoi? Bon, je ne sais pas, peut-être si c'est la vision du chef de l'État, parce qu'aujourd'hui tout ce qui s'est fait est centré sur base de ceux qui incarnent les chefs. Mais aussi il y a un très gros problème, ça veut dire que nos politiques maîtrisent comment fonctionne le peuple congolais. La population congolaise est en particulier les Kinois, nous sommes dans la distraction. Est-ce qu'avez-vous déjà vu ici à Kinshasa organiser une marche pour en tout cas une cause noble? Non, jamais. On est dans la distraction, on est dans la musique, on est dans les théâtres, on aborde des concerts, etc. Or, un peuple très conscient devrait réfléchir sur des vrais problèmes du pays, sur des mots qui rongent en tout cas la République. Donc voyez-vous, parce qu'aujourd'hui, s'il faut même partir de très loin, heureusement on a Christian Moleka au plateau, aujourd'hui on a l'impression que les contrats sociaux, on assiste à une rupture. La rupture, c'est que...
Obed, s'il vous plaît, je veux pas qu'on se disperse, je veux en tout cas pour aujourd'hui qu'on reste par rapport à l'élection et les sanctions du bureau de... Est-ce que vous pensez que de la manière dont sont déroulées ces élections, et également par rapport au profil de ceux qui vont animer à ces bureaux, vous pensez qu'il y a lieu d'espérer que les choses vont marcher, ou bien quelque part vous avez des doutes, comme l'ont exprimé certains de ceux qui vous ont précédé?
Ah bon, écoutez, je ne suis pas divin pour savoir en tout cas si ça serait un pari gagné ou non, mais à la lueur où vont les choses, parce que les signaux sont très forts, et pour moi tout est calculé. Donc ça veut dire que tout est calculé, tout est fait sur base des concessions, tout est fait sur base des choix politiques.
Donc bon, attendez, donc vous êtes pas divin, donc on attend voir.
Je suis pessimiste.
On attend voir comment les choses vont se passer. Obed, on s'arrête là. On doit conclure pour les intervenants avec Maître Patrick Odia qui nous appelle depuis Lubumbashi. Merci à vous Obed Bouissa d'avoir réagi depuis Kinshasa. Maître Patrick Odia, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Maître.
Bonjour Marcel, bonjour Monsieur Christian Monica et à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Bonjour Maître Patrick.
Allez-y Maître, vous avez 2 minutes, allez-y.
Merci beaucoup de m'avoir associé à ce niveau du débat. D'emblée, je voudrais dire que tout politiste ou politologue ou juriste sérieux connaît ce que nous appelons l'État au sens strict du terme, au sens large du terme. Donc on parle également de provinces, on parle des entités. collectivistes ou collectivités territoriales également et décentralisées. Alors, lorsque nous essayons d'analyser les modes de scrutin effectués aujourd'hui pour le bureau définitif des assemblées provinciales, Marcel, monsieur Christian Modeke, vous serez tellement étonné de voir que même au niveau de Wokatanga, ici, il y a eu une irrégularité dans la procédure pour ne pas également exposer beaucoup plus l'ignorance de certains caciques, j'allais dire de certains caciques de l'Union Sacrée également. Je prends également la province des Lualaba. Les règlements intérieurs d'ordre intérieur, ces articles, je pense, 18 et 17, si ma mémoire ne me trahissait pas, stipule ou dispose de ce qui suit, que le bureau définitif doit tenir compte de la légalité, c'est-à-dire au sein du bureau définitif, il doit y avoir également les hommes, il doit y avoir également une femme au moins qui doit être représentée. Mais lorsque vous prenez le bureau définitif de Lualaba, de la province de Lualaba, chez Fimasuka, il n'y a aucune femme et cette disposition passe en berne. Et tous les députés, j'allais dire tous les membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Lualaba, sont d'un seul parti politique, pour ne pas dire la majorité. Et même en violation de cette disposition de leur règlement intérieur qui a été jugé conforme à la Constitution. Une violation grave. Dédé également, Kinshasa, où nous en droit nous disons que la forme prime sur ce qui est de fond, et le président des bureaux d'âge qui ne convoque pas, qui ne convoque au moins pas la plénière, mais un secrétaire, un rapporteur convoque par manque de qualité et on installe un bureau définitif. De même également au niveau des provinces du Haut-Katanga. Même également aussi du Kivu, où il y a une guerre de leadership au sein même de l'Union Sacrée, entre l'Union, l'INC, entre l'IDPS, APDC également. Toutes ces choses, en ce qui concerne les attentes de la population, je vous dis, Christian Modeke l'a dit, les attentes sont bien là, mais seulement que les acteurs pouvant aboutir, répondre à ces exigences, des attentes de la population, ne sont pas là.
Voilà, profiter. Merci.
Je voulais citer par ça. Disant qu'il y a un avocat congolais, Maître Jean Bosco Badibanga, qui a écrit un article sur Kinshasa, siège des hommes forts, qui dicta mot d'ordre, dictature, corruption, antivaleur, concerne aujourd'hui ou caractérise aujourd'hui l'Union Sacrée au travers des dictats, que ce soit du parti présidentiel, au travers des secrétaires généraux, soyons sérieux de le dire. Où on essaie d'imposer des candidats qui ne peuvent pas avoir
voilà,
des profits
merci,
de pouvoir contrôler et exercer un contrôle parlementaire sur les gouverneurs de province. Et ça, c'est dommage.
On a fait assez de temps vraiment la fin de ce numéro. Merci, Maître Particodia, d'avoir réagi depuis le Lubumbashi. Christian Molika, vous avez une minute pour conclure.
Je conclurai en disant qu'il n'y a pas de libre administration sans liberté financière. Et l'un des vrais problèmes des assemblées provinciales, c'est qu'ils n'ont pas l'argent. On se rappelle tout le temps que Kinshasa réunit les présidents provinciaux, les gouverneurs, la rétrocession, après c'est 6 mois, c'est une année d'arrêt. Et tant qu'on aura ce modèle où on transfère le pouvoir sans transférer le trésor, eh bien, le développement à la base sera un leurre. On continuera à croire à cela. Veillons voir, avec les ETD qu'on vient également d'installer, qu'on va transférer les ressources financières pour permettre aux provinces de fonctionner.
Voilà, merci beaucoup Christian Modeke. Je rappelle que vous êtes politologue et coordonnateur de la dynamique de politologue de la RDC Dipolancique. Merci d'avoir été dénoncé. C'est toujours un plaisir de nous avoir dans ces studios et surtout dans cette émission par aux auditeurs pour échanger avec les auditeurs. On espère vous retrouver prochainement.
Merci.
Voilà, fin de ce numéro de Parole aux auditeurs de 6 jours. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la mise en onde, Abdel Chinani qui l'a réalisé et coordonné au micro. C'était Marcel Ngomoba. Le plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro de votre magazine d'échange citoyen Parole aux auditeurs. D'ici là, bon suivi de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.